Et voilà, l'enfant arrive enfin dans le second espace artificiel, l'école. Cet espace est bien particulier, d'abord parce qu'il n'émane plus du territoire et des communautés où vit l'enfant, bien que fût un temps, c'était l'école communale. N'ayons pas peur des mots, c'est un espace étatique. Vous connaissez sans doute l'histoire de l'école publique. Sa création a relevé de ce que l'on peut appeler la raison d'État. Je ne mettrai pas en doute les bonnes intentions de Jules Ferry, ni ne rentrerai dans les polémiques sur les raisons profondes de l'institution de l'école. Il n'en reste pas moins que ce qui pilote le système éducatif, ce n'est pas la construction et le développement de l'enfant en adulte citoyen, mais ce que l'État juge bon que les enfants connaissent et sachent faire, dans l'intérêt de la bonne marche économique et sociale, de l'organisation sociétale, en principe représentée et défendue par son État, ce que l'on appelle l'intérêt de la nation. Si Jules Ferry s'est opposé à ce que ce soit l'école qui soit obligatoire, mais l'instruction, dans les faits, c'est la première qui l'est. On peut imaginer ceci en disant qu'à partir de 3, 4 ou 5 ans, l'enfant est arraché à sa famille, même consentante, et devient quotidiennement captif et sous le pouvoir de fonctionnaires dont la fonction et le premier souci ne sont pas de l'aider à poursuivre harmonieusement sa construction physiologique, psychologique, cognitive et sociale. Même si bon nombre d'enseignants tentent de prendre cela en compte. L'image n'est pas tellement caricaturale lorsque l'on assiste à l'entrée et à la sortie des écoles, enfants et parents de chaque côté d'une grille, attendant que le portail soit ouvert. Les finalités techniques de l'école peuvent être acceptables, à savoir la construction de langages moins usités dans l'espace familial, comme le langage de l'écrit, le langage mathématique, le langage scientifique, qui font ce que sont l'environnement et la société où l'enfant devra vivre et agir. Il n'y a strictement aucune raison qui ferait que les conditions et les processus d'apprentissage soient différents de ceux qui ont permis, dans la famille et la crèche, la construction du plus difficile, le langage oral. C'est tout simple, trop simple. On s'obnubile sur ce que l'enfant doit savoir pour faire plus tard, alors que c'est dans le faire, dans le présent, parmi d'autres, avec d'autres, pour d'autres, dans des environnements et des relations différentes, que les apprentissages s'effectuent en même temps qu'ils se justifient. Les problèmes de l'école, qui ne cessent de s'accroître, sont beaucoup plus ceux des représentations que l'on a de l'acte éducatif et des apprentissages que des problèmes uniquement politiques ou idéologiques. Ces représentations ont fait concevoir une chaîne scolaire tayloriste de type industriel pour transmettre un catalogue de savoirs et de savoir-faire et non pour que se construisent des langages qui, eux, donnent accès au savoir et au faire. Cette chaîne ne peut fonctionner que si les enfants sont des objets et non plus des sujets, même si les enseignants font ce qu'ils peuvent pour prendre l'enfant en considération. L'école est une enclave complètement isolée dans l'espace social. Certains diront même un état dans l'état. Du coup, si les enfants ou les adolescents doivent y être transformés en élèves pour que la chaîne fonctionne, le parent, lui, y est transformé en parent d'élève, ce qui est une aporie linguistique. On ne peut être évidemment parent que d'un enfant. À l'école, le parent est castré de sa nature de parent et l'enfant de sa nature d'enfant. Paradoxalement, alors qu'on accuse les parents de pas mal des maux de l'école, celle-ci les déresponsabilise quotidiennement de leurs enfants en leur ôtant tout pouvoir, ne serait-ce que ceux du droit de regard, de discussion et pourquoi pas de critique, de proposition. Et bien sûr, le pouvoir du choix. Parallèlement, les enseignants n'ont pas à assumer leur pouvoir vis-à-vis de ceux sur lesquels ils les exercent, les enfants et leurs parents. Mais il faut bien reconnaître que la majorité des parents se satisfait de cette situation. S'ils exerçaient des pouvoirs, en particulier celui du choix, ils devraient aussi en assumer les risques. et surtout la co-responsabilité. L'implication implique le risque de prendre un risque. Ceci ne résulte pas forcément de la bonne ou mauvaise volonté des uns et des autres, mais de la logique du système éducatif tel il a été conçu. Je vais vous surprendre en disant que dans cette logique, Jean-Paul Brighelli a raison quand il dit qu'il faudrait interdire l'école aux parents d'élèves lorsque ceux-ci ne peuvent s'empêcher d'être parents. On ne peut y parler de coéducation quand le rôle des parents n'est que celui de contribuer au fonctionnement d'un système qui est imposé et sur lequel ils n'ont aucune prise. D'autre part, les enfants vont être cette fois confrontés aux pouvoirs institutionnels. Vous me direz qu'il faut bien qu'on les y prépare. C'est d'ailleurs la réflexion que l'on entend généralement. Et c'est ce que l'on appelle la socialisation. Ce que j'appelle, moi, une asocialisation. Cette fois, les enfants sont seuls face à ce nouveau pouvoir. Et ce n'est plus dans l'interdépendance, mais dans la dépendance totale. L'opposition qui fait partie de la construction d'un enfant n'y est plus possible. Elle est interdite par avance. Ce à quoi il faut qu'il se soumette, c'est une règle qui n'émane pas d'un collectif qui n'existe pas, mais des murs même de ce qui est institué. C'est comme ça. C'est comme ça dans toutes les écoles. Cette règle est incarnée par une personne elle-même désincarnée, la maîtresse, le maître. Ce n'est plus une personne avec qui des liens affectifs et une interdépendance peuvent faire admettre ou contester l'autorité, c'est une fonction. L'enfant n'a plus le recours affectif possible à ses parents, qui, eux, n'ont le plus souvent d'autre recours que de renchérir et de cautionner l'institution ou de rentrer en conflit avec elle. Il est en situation d'impuissance. On peut expliquer la plupart des affaires de parents agressant verbalement ou physiquement des enseignants comme l'exaspération de cette impuissance et de leur négation comme parents. La coupure quotidienne de l'entité sécuritaire enfant-parent est totale. Le pouvoir parental qui assurait ou était susceptible d'assurer cette sécurité disparaît complètement. Mais il ne s'y substitue pas un autre pouvoir affectivement sécuritaire. À l'école traditionnelle, l'enfant n'a l'expérience des autres que dans le temps restreint et explosif d'une cour de récréation bétonnée. Pendant le temps scolaire, l'interrelation avec les autres enfants est limitée quand elle n'est pas interdite, ne serait-ce que par la disposition topologique obligatoire de chacun dans l'espace. Quant à la relation avec l'enseignant, ce n'est pas une interrelation, mais une relation à sens unique, qu'il est alors difficile de qualifier de relation. Jusqu'à l'école, toutes les constructions de l'enfant s'étaient effectuées dans les interactions avec un environnement, dans les interrelations, dans des entités, dans des interdépendances. Dans l'école traditionnelle, tout cela disparaît. Vous me direz encore que j'exagère. Certes, c'est vrai, mais seulement parce que bon nombre d'enseignants tentent d'atténuer ce qui n'est que la logique de l'école telle elle est conçue. Et cela leur est de plus en plus difficile.